je m'étais dit en venant avec ce froid et n'en voir personne, tout cette recette de chaud, non, bravo. Alors je vous renouvelle bien sûr tous les vœux de toute l'équipe de Philomania pour une belle année 2024, pour vous, pour vos proches, et puis aussi pour Philomania, en espérant qu'on ait des belles aventures philosophiques. Et je voulais vous inviter, si vous ne l'avez pas fait en entrant, en sortant, pensez à prendre notre nouveau flyer, parce que celui que vous avez, il s'arrête au quelques kilos d'aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir les dates ensuite, parce que continue, bien sûr, on ne s'arrête pas, c'est sur les nouveaux flyers qui sont sur la table à la sortie, et vous pouvez prendre aussi des marque-pages de chacune des conférences. Donc la prochaine, le 23 janvier, sur l'intelligence artificielle. Et puis, on en a deux autres. Je vous laisse découvrir les thèmes sur les marque-pages, comme sur le flyer que vous prendrez en entrant si vous ne l'avez pas fait. Vous prendrez en partant si vous ne l'avez pas fait en entrant. Et puis, je voulais vous demander aussi, une fois n'est pas coutume, d'applaudir les bénévoles, parce qu'ils passent beaucoup de temps à approvisionner le bar, à tenir la caisse, etc. Faire tout un tas de tâches éventuellement. Merci à eux. Et je passe bien sûr la parole à Laurence.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Je me joins donc à Marie-France pour vous souhaiter une excellente année 2024. Et puis, je me permets de rappeler la façon dont on procède. Vous avez la possibilité de proposer toutes les questions que vous souhaiteriez voir traiter ce soir au Café Philo. Ensuite, on passe au vote. Vous pouvez voter autant de fois que vous le souhaitez, donc pour toutes les thématiques ou les questions qui vous intéressent. Et la question ou la thématique qui a rapporté le plus de voix sera celle qui sera traitée ce soir. Voilà. Si jamais on a un vote, des votes qui sont équivoques, on recommence le vote et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus voter qu'une seule fois. Ça, c'est assez rare, mais ça peut se produire. Donc, je vous laisse la parole. Le micro va circuler parmi vous. Si vous souhaitez proposer un sujet, proposer une question, proposer une thématique, la parole est à vous. Sachant que notre présidente, Marie-France Canot, prend des notes toujours très sérieusement pour être à peu près assurée que ce que vous voulez voir traiter est correctement formulé.
Alors, bonjour, c'était pour proposer un sujet. L'équité est-elle compatible avec l'égalité ? Ne devrait-on pas être équitable avant d'être égalitaire ?
Donc, l'équité est-elle compatible avec l'égalité ? Avec, en sous-question, faut-il privilégier l'équité à l'égalité ? D'accord. Oui ?
Bonsoir. Donc moi, je vais proposer un sujet que j'ai déjà proposé. Est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître ?
D'accord. Est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître ? D'autres propositions ? Oui, madame ?
Voilà. Le pouvoir des mots est-il la force de l'humanité ?
Le pouvoir des mots est-il la force de l'humanité ?
Et j'aurai un autre sujet. Pourquoi les religions qui disent prôner l'amour du prochain et la tolérance ont-elles perpétré de tels massacres et continuent d'en perpétrer ?
D'accord. Donc, pour quelles raisons les religions d'amour entraîne toujours la guerre, pour dire ça comme ça. Oui. Des massacres.
Oui.
Non, des guerres.
Oui, en fait, oui, vous voulez faire plus court, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça, pour reformuler un peu la question.
Oui, c'est qu'en fait, effectivement, les religions prônent
l'amour
du prochain, et pour autant, je veux dire, il y a des guerres, et puis il y a des massacres, des horreurs qui se perpètent encore.
Oui, en leur nom, c'est l'idée ou ouais,
oui, c'est ça, c'est l'idée. Hein.
Voilà. Ouais. Donc, pourquoi les religions qui prônent l'amour engendrent malgré tout la guerre? Ça vous irait ça comme formulation?
Oui.
Ouais. Approuve.
Ah oui,
approuve la guerre. D'accord. Par exemple,
vous dire que le fond de
oui, tout à fait, oui. Il y a une question d'approbation.
D'accord.
Ah non, en fait, c'est vrai qu'elle elle, c'est un peu. Cette jeune fille, c'est vrai. En fait, elle dit que bah, les religions
n'approuvent pas la guerre.
N'approuvent pas la guerre. Mais... c'était une histoire d'approbation, en réalité.
Vous aviez utilisé quoi vous-même, madame?
Pardon?
Dans votre formulation, qu'est-ce que vous aviez utilisé?
Oui, pourquoi les religions qui disent pourtant prôner l'amour du prochain et la tolérance ont-elles perpétré de telles horreurs et continuent d'en perpétrer?
Voilà, donc, oui, perpétré. Mm-hmm. Donc, voilà. Ok.
Oui. J'aimerais traiter comme sujet l'invective ou l'humour.
L'invective ou l'humour.
Enfin, l'insulte, pareil. Ou l'humour.
D'accord. Dans quel cadre?
Dans un cadre général, je trouve que quand on regarde les débats à l'Assemblée, tous sont des insultes, il n'y a aucun trait d'humour. L'humour, on n'en entend plus beaucoup parler.
Mm-hmm.
Et quelquefois, ça peut apaiser les tensions. Par rapport à une insulte, je trouve que c'est moins prenant.
D'accord. Donc, où est passé notre humour? C'est ça, voilà. Voilà. A-t-on perdu le sens de l'humour?
Surtout au niveau des hommes politiques.
Au niveau de la politique.
Quand on a vu des débats à l'Assemblée,
une rare violence,
c'était une rare violence. Et il n'y avait aucun personne qui a eu des mots d'humour qui auraient peut-être calmé les tensions.
Mmh. Ouais, donc c'est désamorcer en fait la chose. Donc, humour ou invective, on va garder la formulation. Hein. D'accord. Oui, il y a une autre proposition, monsieur?
Pour vivre et pour mourir, est-ce qu'il est plus facile de croire en Dieu que de ne pas y croire?
D'accord. Pour vivre ou mourir, est-il plus facile de croire en Dieu ou de ne pas y croire? Mmh. Oui. La paix sociale, non, la stabilité sociale vaut-elle plus que la vérité?
D'accord.
La stabilité sociale, la paix sociale, vaut-elle plus que la vérité?
Est-ce que je peux en proposer un autre?
Allons-y. Madame?
Jusqu'où iront le pouvoir et l'argent?
D'accord. Jusqu'où iront le pouvoir et l'argent?
Ça
ça nous fait quand même un certain nombre de propositions. Hein. 8. C'est bien. Donc, je vous propose de passer au vote. Marie-France, premier sujet.
Je les relis peut-être tous.
Oui. Et puis on passera au vote.
Et on passe au vote dans un deuxième temps.
Alors, l'équité est-elle compatible avec l'égalité, avec en sous-titre, faut-il privilégier l'équité à l'égalité? Deuxième sujet, est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître? Troisième, le pouvoir des mots est-il la force de l'humanité? Quatrième sujet, pour quelles raisons les religions qui prônent l'amour ont-elles perpétré de telles horreurs et continuent d'en perpétrer? Sujet, ça doit être le numéro 5, l'invective ou l'humour. Le numéro 6, pour vivre et pour mourir, est-il préférable de croire en Dieu ou de ne pas y croire? Sujet numéro 7, la stabilité sociale est-elle plus forte,
plus importante que
la vérité? Et dernier sujet, jusqu'où iront le pouvoir et l'argent? Alors, je les reprends un par un pour le vote.
Ah oui.
L'équité est-elle compatible avec l'égalité et faut-il privilégier l'équité à l'égalité? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le pouvoir des mots est-il la force de l'humanité? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pour quelles raisons les religions qui prônent l'amour ont-elles perpétré de telles horreurs et continuent-elles d'en perpétrer? L'invective ou l'humour?
L'invective ou l'humour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pour vivre et pour mourir, est-il préférable de croire en Dieu ou de ne pas y croire?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Et jusqu'où iront le pouvoir et l'argent? Il en manque un, la paix sociale. Bon. Excusez-moi. La stabilité sociale est-elle plus importante que la vérité?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Jusqu'où iront le pouvoir et l'argent?
Jusqu'où iront le pouvoir et l'argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Alors,
Il n'y a pas de deuxième tour nécessaire. Le sujet qui remporte la palme ce soir, c'est la stabilité sociale est-elle plus importante que la vérité.
D'accord. Donc, comme la tradition le veut, quelle est la raison d'une telle question?
Voilà.
Pourquoi une telle question?
Pourquoi une telle question? La femme elle tournait, elle a changé de titre. La question aussi c'était de savoir jusqu'où, enfin, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et jusqu'où on est prêt à accepter pour assurer la stabilité sociale, donc éviter par exemple des révolutions, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on voit dans pas mal, par exemple, de groupes sociaux, ça peut être au sein d'entreprise, au sein d'une famille, des choses comme ça, de cultiver une forme de mensonge pour que, éviter qu'il y ait des problèmes, de pas dire les choses. On parlait à un moment des tabous, c'est un peu la corollaire de ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important de... Bon, bah, jusqu'ici tout va bien, on accepte ça, mais jusqu'où ça va tenir, quoi. Le fait qu'il puisse y avoir une dégradation des droits, des choses comme ça, par exemple une dégradation écologique, si on parle d'aujourd'hui, pour l'instant ça tient. C'est quoi qui va déclencher ou qui peut déclencher un effondrement, une révolution, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'était la question de cette stabilité sociale qui était quelque chose de fondamental parce que. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très angoissant qu'il n'y ait plus de règles et que tout pète ou des choses comme ça. Mais voilà, pour moi, il y avait quelque chose qui se jouait dans cette, entre ces deux aspects de ce qu'on est prêt à accepter et ne pas supporter d'être dans un état de non-droit ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je m'interrogeais là-dessus. Je vous laisse.
La réflexion.
Voilà.
Alors, si on dit, ou si on disait, ou si on reformulait en disant la révolution, oui, mais à quel prix, ça serait un peu ça, en fait.
Après, bon, j'avais entendu, mais c'est pas forcément que la révolution, parce qu'on peut voir, par exemple, quand il y a des histoires d'inceste qui sont cachées dans une famille, on est à l'échelle d'une famille où, pour assurer la cohésion de la famille, on cache quelque chose de très très grave. Donc il y a aussi cet aspect, la vérité semble pas forcément si fondamentale quand il s'agit de questions de stabilité. Enfin, il y a eu des histoires de scandales sanitaires, des choses comme ça, on a préféré cacher la vérité plutôt que de dire parce que pour pas que les gens paniquent. Et ça semble pas non plus comment dire, ça semble aussi important cette place sociale et cette stabilité en fait. Jusqu'à quel point c'est important et jusqu'à quel point il faut la maintenir. Enfin, est-ce que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour l'être humain aussi?
Oui.
Oui, il y a une question, c'est qu'il semblerait dans ce qu'on vient d'entendre que on maintient la paix sociale par le silence, par cacher les choses, par etc. Par mais la question vient, ne peut-on pas précisément avoir une paix sociale de qualité en étant dans la vérité, non pas dans le mensonge, dans le non-dit, dans le tabou, etc.
Donc quel est le statut de la vérité du coup?
Voilà.
Oui.
C'est ce que je voulais dire. Donc, il faut peut-être préciser de quelle vérité on parle. Est-ce que c'est la vérité par rapport au mensonge, ce qui voudrait dire qu'on connaît la vérité et qu'il y a un mensonge, on cache une vérité, pour que ça ne se passe bien. Ou est-ce que c'est la vérité au sens large, c'est-à-dire le vrai et ramener à la vie concrète. Je pense par exemple au Covid, il y a des gens qui ont pensé que ce qui avait été dit était la vérité et que ça donc induisait un certain nombre de comportements. Et il y a des gens qui pensaient que la vérité était autre et il aurait fallu adopter d'autres comportements. Donc la question là s'entend quand on connaît la vérité, c'est-à-dire quand c'est concret et quand parallèlement à ça, il y a un mensonge et qu'on sait qu'on est en train de mentir. Mais je pense que quelquefois, on maintient la paix sociale au nom d'une vérité, mais c'est une vérité qui n'est vraie qu'à un moment donné. Ça peut avancer, évoluer, changer. Et du coup, il faut accompagner la réflexion. Mais est-ce que la paix sociale, elle tient sur la vérité? Qui connaît la vérité? Par exemple, je pense au mouvement des Gilets jaunes, le prix de l'essence, quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui. C'est, la vérité, on met la barre à quel moment? À quel moment la vérité n'est plus vraie et à quel moment elle devient mensonge ou on s'aperçoit qu'elle a été mensonge?
En fait, ça soulève tellement de sujets. Et moi, ma vision sur cette partie-là, c'est de me dire que si on reste sur pourquoi on maintient la paix sociale, justement via des mensonges ou via des omissions, parce que souvent, ça va même juste être je ne parle pas de certains sujets, c'est parce que déjà, il y a la friction de devoir remettre en question quelque chose. On ne peut pas être celui qui porte sur ses épaules le travail de je rebascule un sujet. Surtout quand on parle de changement sociétal où on va avoir des grosses modifications à réaliser si on veut aller vers des objectifs qui nous intéressent, que ce soit écologique, que ce soit juste le respect humain, que ce soit tout ce qu'on veut. Et les acquis sociaux aussi. Parce que c'est quand même plus confortable d'être là où on est, chauffé dans une salle, que être dans un endroit peut-être plus respectueux côté écologique, mais où il fait froid. Donc, et aussi après, qui peut prendre les décisions sur ça? Et du coup, quel est l'intérêt de ces personnes-là de prendre ces décisions? Donc ça soulève trois points qui me font dire qu'en fait, c'est beaucoup plus galère que ce qui paraît, et que dire une vérité en soi, c'est juste se mettre des bâtons dans les roues soi-même, quand on maintient un mensonge depuis X temps, parce que les gens vont être fusibles, hein, c'est sur nous qu'on va taper, parce qu'on fait bouger quelque chose. Donc, il y a. Pour moi, pour l'instant, c'est un sujet où je suis très content que ce sujet ait été abordé, parce que c'est quelque chose qui tourne en tête.
Et c'est vrai que c'est un peu le cas des lanceurs d'alerte. Hein. Les lanceurs d'alerte, ils sont en première ligne, et effectivement, qu'est-ce que ça amène à la société et à eux, le fait de dire une vérité qui dérange profondément.
Et le problème, c'est qu'on a beau dire une vérité, on a beau dire quelque chose, on n'a pas de solution que l'on peut apporter, forcément, on est le vilain petit canard. Donc tout le monde nous pointe du doigt en disant c'est très bien ce que tu dis, mais ça réveille un inconfort, et ce réveil-là fait que si on n'a pas de solution, c'est beaucoup plus facile de taper sur la personne qui a donné le problème en disant oui, mais tu proposes rien. Donc on étouffe le sentiment d'injustice en le mettant sur la personne qui a soulevé le problème. Donc ça ne fait pas avancer le débat, mais au moins ça permet quand même d'éveiller les consciences. Mais si on veut être éveillé.
Simplement, j'aimerais savoir ce que vous entendez en fait derrière vérité. Parce que pour moi, la vérité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité en fait. Une vérité en chasse une autre. Il y a la vérité absolue, la vérité, j'allais dire, presque relative. Et j'aimerais savoir ce que vous entendez derrière vérité. Est-ce que c'est simplement la révélation d'un fait? Je ne suis pas sûr que ça soit, si vous voulez, une vérité. Qu'est-ce que la vérité? Comment vous concevez la vérité?
C'est pas tant l'aspect de vérité qui était plus fondamental que sur qu'est-ce qu'on accepte. Après, j'entendais quand même plus comme révélation d'un fait ou une omission, justement. Mais c'est parce que c'est vrai que j'avais une série d'exemples en tête. Je n'ai pas forcément pensé le concept de vérité suffisamment avant de vous le poser. Après, du coup, moi, ça me fait penser aussi qu'il y a énormément de sociétés qui sont basées non pas sur des vérités, justement, mais sur un système de croyances. Quand on pense aux religions ou aux religieux en tant que telles, on n'a pas de preuve que c'est vrai ou pas, c'est une croyance. Et pourtant, ça fonde la société. Donc, en effet, la question de la vérité, elle est peut-être un petit peu floue. Mais là, c'est vraiment, il y a des faits qui sont cachés à un certain nombre de personnes pour ne pas que ça crée de la panique. Et on considère que c'est mieux de ne pas leur dire,
plutôt que de le dire et que ça crée justement une fracture. Je sais pas, par exemple, il y avait eu, enfin, c'était pas mon époque, mais le scandale du sang contaminé, des trucs comme ça, il me semble que ça avait été caché quelque temps. Bon, voilà, c'est ce genre d'exemple que j'avais en tête en parlant de vérité.
Oui.
Très bon avis. Vérité, mais il y a souvent dans les choses qui peuvent déranger, qui dérangent, il y a aussi des notions d'intérêt général opposées à des intérêts particuliers. Par exemple, on prend par exemple la mobilité électrique. Quid de l'efficacité sur le long terme, de la pertinence du mode de déplacement 100% électrique sur le long terme, personnellement, j'en suis pas vraiment certain. Pour avoir discuté avec des spécialistes, et puis soit on prend, dans le cadre de ce problème-là, uniquement le fonctionnement d'un véhicule, par exemple, mais si on prend tout le cycle de fabrication, de recyclage, etc., là, ça change complètement. Donc, en fait, n'y a-t-il pas des industriels qui ont intérêt de... évidemment, on ne comprend pas tout le monde, sans doute. Par exemple, sans contaminer, c'était aussi des questions d'intérêt général et d'intérêt particulier. Donc, il y a des. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et là-dedans, il y a aussi alors, des intérêts privés, mais il y a des intérêts, enfin, il y a des hommes politiques, par exemple, puisque de politiques gouvernent vraiment, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés par. Le dernier sujet, c'était l'argent, le pouvoir. Ben voilà, tout ça, c'est le pouvoir, l'argent, les intérêts généraux et intérêts particuliers. C'est peut-être ça que parfois on appelle réalité. Enfin, pas vraiment la réalité, mais où on en est dans tout ça, c'est pas évident.
Mais du coup, on voit que ça se complexifie sérieusement, parce qu'effectivement, il y a la vérité qu'on connaît, le fait assuré, par exemple l'inceste, que l'on va taire volontairement, donc mensonge par omission, ou mensonge réel, pour maintenir les structures familiales, par exemple. Et puis ensuite, il y a peut-être aussi une vérité que l'on sait être là, que va devenir le modèle électrique, mais en fait qu'on ne connaît pas. Il y a aussi une grande part d'ignorance qui fait que parler, c'est dire ce que l'on sait, mais est-ce que ce que l'on sait à l'heure d'aujourd'hui est le vrai ou ne l'est pas, c'est encore une autre question. Parce qu'on pense dans ce cas-là une vérité sur un mode absolu, donc qui ne varierait pas, et de cela on n'est peut-être absolument pas certain. Et puis ensuite, ce dont on est certain, la certitude. Mais qui dit certitude ne dit pas nécessairement vérité. On peut dire effectivement tout un système de croyances auquel on s'accroche et qu'on ne veut pas nécessairement voir remis en cause et qui peut tenir les structures d'une société. Est-ce qu'on doit se battre pour ces croyances? Voilà. Toute vérité est-elle toujours bonne à dire? Parce qu'après tout, voilà, c'est pas parce que je sais le vrai et je le dis que ça changera nécessairement quelque chose. À la société dans laquelle j'évolue, ou en tout cas qu'il y aurait une efficacité de la vérité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une utilité toujours à dire la vérité? Donc si, c'est une vraie question. Oui.
Moi j'interrogeais la notion de paix sociale et de stabilité sociale, c'est-à-dire que, on va reprendre l'exemple de l'inceste dans une famille, c'est la paix de qui? C'est la stabilité de qui? Donc, en petite échelle, grande échelle, en fait, c'est la paix de qui est maintenue. C'est, on appelle ça de la paix, on appelle ça de la stabilité, mais en réalité, vous parliez d'intérêt général, d'intérêt particulier, c'est le confort, le connu, d'une partie au profit de quelque chose qu'on va appeler globalement de la paix de la famille. Mais en fait, est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est de la stabilité?
L'autre nom, ça pourrait être aussi la tranquillité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tranquille? Ouais.
Alors, moi, je n'ai pas parti sur l'inceste, mais sur le principe de l'hypocrisie sociale. En fait, on ne peut pas se permettre de dire à son voisin ce qu'on pense réellement de lui, parce que de toute manière, ça n'a aucune utilité, qu'on ne le connaît pas, et qu'en plus, je veux dire, ça fait que semer le trouble. Donc, oui, il y a des vérités qui sont bonnes à dire, et d'autres qui sont bonnes à faire.
Si on conçoit ce qu'on appelle la paix sociale, la stabilité sociale, comme un moment d'équilibre ou de moindre déséquilibre entre les rapports de force, est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a cohabitation de plusieurs vérités? Moi, ce qui m'interroge, c'est l'unicité de la vérité au niveau social.
Après, je vais rebondir sur ce que je voulais dire, c'est justement, je pense que la question, pour moi, ce n'est pas une question de vérité, c'est une question d'utilisation du mensonge. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou n'importe? Absolument tout. On est capable de tout gommer. Partiellement, ça nous rassure. On a peur. On a désespérément peur. Donc il faut absolument. On est dans un monde où il y a des gens qui sont convaincus que la Terre est plate et d'autres qui adhèrent. Moi, si je me mets sur Internet à faire je sais pas quoi et dire que la Terre est triangulaire, j'ai des gens qui vont être d'accord avec moi. On cherche à se rassurer, à trouver des gens. Je pense que c'est pour ça que plusieurs vérités. Parce que je ferai une petite distinction entre la vérité et la réalité. La mort, c'est une réalité. Elle est incontestable. Donc, ce n'est pas notre problème. On ne discute pas sur la mort. On va parler de la mort, mais qu'est-ce que ça nous fait réellement, l'impact sur nos sociétés, la philosophie ou n'importe. Au final, c'est un sujet qu'on tête et qui est en fait écarté parce que en fait, c'est un état de fait. On ne peut rien y faire. Par contre, tout ce qui va nous concerner directement, là, du coup, on va se mettre à débattre, on va être, comment dirais-je, on va pas chercher à savoir si on est d'accord avec les choses, dans le sens où, comment je peux vous dire ça, vous parliez du Covid tout à l'heure, ça n'est pas fait, c'est la maladie. Une pandémie, il y a tout un tas de raisons, mais on a cherché à trouver en fin de compte les raisons du pourquoi, du comment ça s'est répandu avant même de se protéger, qui était déjà la chose première à faire. C'est pour ça que j'ai le masque, hein, mais cette terreur qui nous a en fin de compte amené à cette paranoïa nous a amené en fin de compte tout un chacun à presque aligner nos dirigeants. Nous inclut. Il ne faut pas oublier que je pense que l'élément essentiel dans votre question d'origine, ce n'est pas en fin de compte ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on est capable d'accepter. Donc, on ne donne jamais le pouvoir à un roi. Enfin, c'est l'inverse, justement. C'est le pouvoir, un roi n'a pas de pouvoir en lui-même. C'est nous qui lui donnons. Pourquoi, en fin de compte, on est capable d'accepter, par des incestes, qu'un père viole ses enfants, que la mère le sache, ne dit rien, a peur. Les enfants ne disent pas pourquoi. Parce qu'ils ont peur. Peur de plus être aimés par leur père, parce qu'ils l'aiment. Même si c'est un monstre, ils l'aimeront toujours jusqu'à leur mort. Ils ont peur que leur mère ne les aime plus. Leur famille, leurs amis, la société, c'est la peur. Et le problème, c'est. Ben voilà, je reçois quelqu'un qui est des États-Unis la semaine prochaine. Cette notion qu'il y a justement sur ça, je parlais aussi de la Terre plate, etc., qui sont des sujets absolument tranchés aux États-Unis, amène ce pays, qui pourtant aussi a une démocratie, dans un état de mentalité, de conception, de point de vue des choses qui est effrayant. C'est effrayant. On a quand même des gens qui, l'année dernière, ont tenté de prendre le capital. Parce que, et pourquoi ? Ces groupes-là avaient peur de ce fameux pouvoir détenu par ces pédosatanistes qui dominent le monde en sous-jacent, la peur. Et c'est la peur qui annule tout raisonnement. Je vais faire juste pour finir, il y a une petite. Je vais faire une petite référence religieuse, notamment vis-à-vis du bouddhisme. Il y a une notion qui est assez rigolote, c'est sur la notion de l'illusion. Où. On vous met dans une pièce, il n'y a qu'une seule porte, pas de fenêtre. Et puis, vous êtes tout seul, vous avez quelqu'un qui rentre, qui jette quelque chose d'assez long et qui est pas mal lumière. Et puis, il dit, attention à un serpent. Panique générale, ce qui est normal. On allume la lumière, c'est un morceau de corde. Et là, on se dit, ouf. Mais le truc, au lieu de se dire, on va rester calme, même si on va cogner à la porte ou quoi que ce soit, on va être totalement paniqué de toutes les suggestions qu'on va se faire, toutes les projections qu'on va se faire de qu'est-ce qui pourrait nous arriver, nous, qu'est-ce qu'on peut perdre. Et je pense que c'est ça qui fait que qu'est-ce qu'on veut à tout prix pouvoir garder par peur de perdre. Donc, la stabilité, on préfère accepter tout n'importe quoi. À partir du moment où ça ne nous touche pas, et qu'en fin de compte, parce qu'en fait, il n'y a pas de stabilité, il n'y en aura jamais. On est tous différents, on est tous des sociétés. La seule vérité à la limite qu'on peut avoir là, c'est qu'on a tous le même carrelage au-dessous des pieds, puis on a le même plafond sous la tête. Mais ça, on s'en fout. Parce que c'est un état de fait. Mais par contre, il y en a qui préféraient plutôt que ça soit des langues, et puis d'autres. Et ça, c'est cool. Mais là, on n'est pas capable de l'entendre parce que il faudrait être d'accord avec l'autre. Et accepter ce que l'autre dit, c'est compliqué.
Alors, peut-être on pourrait clarifier effectivement cette position, c'est-à-dire la peur, elle vient d'où ? Si je reprends votre exemple, très clairement, elle vient de l'imagination. Bon, voilà. C'est-à-dire, elle vient en fait de ce que je ne connais pas. Et donc, effectivement, à partir de là, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour calmer cette peur, c'est-à-dire ce pouvoir de l'imaginaire. Et on pourrait croire que le fait de connaître la vérité, justement, ce qui est, nous libérerait de cette peur et que ça serait la vérité qui, elle, assurerait justement la paix sociale. Non pas qu'on nous la cache, non pas qu'on ne voudrait pas l'entendre, mais au contraire, la connaître pour maintenir la structure sociale. D'où pourquoi mentir ? Et là, c'est intéressant.
Et la peur de perdre.
Et voilà. Pourquoi mentir ? Et je me servirai de Platon. Platon, le philosophe grec, s'il en est, le philosophe de la vérité. Et que nous dit Platon, ou que conseille Platon à l'homme politique ? Il dit, mais surtout, si vous voulez être un bon politique, apprenez à bien mentir. La politique, qu'est-ce que c'est ? C'est du mensonge. Alors ça peut choquer comme ça. C'est du mensonge. Pourquoi ? Parce que justement, le mensonge, c'est ce qui assure la paix sociale. Et plus que la paix sociale, j'irai plus loin encore. Le mensonge, ça permet quoi ? Ça permet d'assurer le bon gouvernement. Voilà. L'homme politique qui est un homme politique qui vise le bien, c'est celui qui sait aussi mentir. Pourquoi ? C'est surprenant quand même, c'est fort choquant. D'accord ? Pourquoi ? Mais parce que Platon dit, mais la vérité est là. Vous croyez qu'elle est simple à contempler ? C'est ce que vous dites. Vous croyez qu'on l'accepte, la vérité ? Qu'on accepte de la voir ? Qu'on accepte de l'entendre ? Mais moi, je préfère l'illusion, pour le coup. Je préfère, lorsqu'on me dit que tout va bien, que le monde fonctionne à peu près correctement, bon, ok, des fois ça dysfonctionne, mais c'est pas si grave que ça. La vérité, il faut être capable de vraiment de la voir, de la contempler, de l'entendre, de l'assumer. Parce que il suffit pas qu'on la dise, la vérité. Ensuite, encore faut-il qu'on soit capable de la prendre en charge. Et Platon dit, mais là, il y en a combien dans le peuple, le gros animal, comme il dit, là, qui, dès qu'il a peur, est capable, effectivement, tout d'un coup, sous la terreur, de faire à peu près n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce gros animal ? Eh bien, il faut lui mentir. Il faut lui dire que tout va bien. Parce que pour être capable d'affronter la vérité, ben, encore faut-il du courage. Voilà. Encore faut-il une éducation. Encore faut-il être capable d'analyser ce qu'on me présente comme vérité et que je ne prenne pas pour vérité tout ce qu'on me dit être vérité. Il faut être capable d'avoir un esprit critique, de prendre du recul, sans pour autant vouloir nier ou vouloir justement me détourner de cette vérité. Donc c'est pas simple en fait de
faire de la vérité le ciment de la paix sociale. Et c'est tellement pas simple que peut-être seuls ceux qui nous gouvernent, les fameux philosophes rois, nous dit Platon, sont eux capables d'assumer et de voir la vérité en face, mais que la majorité d'entre nous, nous ne le sommes pas. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire, et vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes capables d'accepter d'entendre? Est-ce qu'on est même capable d'entendre d'un politique qu'il ne sait pas, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais qu'il n'a pas tous les atouts dans la main pour nous dire effectivement ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on accepte tout ça? Est-ce qu'on accepte qu'une forme d'incompétence puisse se dire, qu'une forme d'ignorance puisse se dire, qu'on sente qu'il n'est pas la toute maîtrise au sommet de l'État ou dans la famille aussi? Est-ce qu'on accepte en fait que quelque chose apparaisse, se manifeste au sein de ce que la société attend qu'une famille soit? Vraie question.
Il me semble que dans le domaine de l'écologie, c'est peut-être le gros animal qui fait preuve de lucidité, qui voit la catastrophe du dérèglement climatique arriver, la destruction de la biodiversité, etc. Et les politiques qui mentent, qui disent que tout va bien et qui ne font rien. Mais la lucidité, elle est du côté du gros animal dans ce cas-là, me semble-t-il.
Du coup, comment agir?
Oui, ceci dit, il serait assez facile d'attendre tout des hommes politiques et qu'ils décident à notre place, de façon à ce qu'on puisse largement grogner en disant « Mais non, enfin, on n'est pas trop, on n'a pas trop pas, bien, j'aimerais pas le réduire. » Est-ce que ce n'est pas justement plutôt de l'ordre de la responsabilité individuelle et de chacun de prendre ses responsabilités et dire les politiques, ils font peut-être ce qu'ils peuvent ou ils font rien, mais moi, qu'est-ce que je fais, quoi, voyez? Parce que sinon, attendre de l'autre qu'il fasse pour moi, je trouve que là, ça colle pas trop. Quoi.
Je crois quand même que dans le domaine de l'écologie, tous les petits gestes individuels ne suffiront pas à résoudre le problème et qu'il faut des mesures fortes.
Oui, mais les politiques, comme vous dites, ils vont vous imposer des petits gestes individuels, de toute façon.
L'arrêt du glyphosate, c'est pas un geste individuel.
Non. L'arrêt des énergies fossiles, c'est pas un geste individuel. Discipliner les lobbies, je pense que ça peut difficilement venir.
Moi, je veux bien, mais si demain on dit on vous coupe l'essence, je l'ai.
Donc, pour que vous considère qu'un politique agisse, qu'il soit crédible aussi. Or, s'il est pris en flagrant délit de mensonge, et je ne pense pas qu'il puisse. Quelqu'un parlait de temporalité au début, est-ce que le mensonge, on peut vraiment le cacher pendant 10, 20 ou 30 ans, surtout avec les systèmes d'information qui sont les nôtres? Donc, si il est considéré comme menteur, est-ce qu'il est encore crédible? Et est-ce qu'on l'écoute encore ou est-ce qu'on le suit encore? Avec seulement du mensonge, est-ce qu'on peut vraiment gouverner ou acquérir de la paix sociale? Parce qu'on perd toute crédibilité. Donc, il y a la question de la crédibilité qui est intéressante. Parce que monsieur vient de parler de si c'était aussi une démarche individuelle, il y a de plus en plus de complotistes. Et pour eux, ils ne sont pas intéressés à la vérité. Parce que si une information va dans le sens de leur complot, c'est la vérité. Si elle ne va pas dans le sens de leur complot, c'est justement qu'il y a complot. Donc la vérité n'a plus de place dans leur système de croyance. Donc est-ce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont plus accessibles aussi à la vérité? Et donc, vous pourrez faire ce que vous voudrez, c'est pas auprès d'eux que vous pourrez acheter la paix sociale. Et quelqu'un a parlé d'environnement, j'ai l'impression que c'est devenu aussi un grand mensonge, parce qu'on revisite tout à l'aune de l'environnement. Si vous regardez les événements historiques, maintenant, la moindre société qui a disparu, c'est à cause de l'environnement. on est en train de faire une sorte de révisionnisme, avec l'environnement, et plus personne ne s'interroge. C'est devenu le mot magique, quoi. On dit vert, on dit environnement, et on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions sur ce qu'on met dans les batteries des voitures électriques, on ne se pose pas de questions sur le recyclage, on ne se pose pas de questions sur d'où viennent tous ces éléments, on ne se pose pas de questions sur les pays qui sont les plus en avant. Et je trouve que là, on est dans un moment où, finalement, on ne se pose pas de questions, on ne cherche pas la vérité. Parce qu'on a un mot magique. Et je pense qu'il y a des moments comme ça où finalement on court plus après, on prend tout ça comme une vérité et plus personne ne s'interroge. Et je pense qu'on est dans un moment comme ça avec l'environnement. C'est devenu un mot magique. Plus personne ne s'interroge sur effectivement ce que disait monsieur, qu'est-ce que ça va donner à 10, à 20, à 30 ans. Plus personne, si c'est pour remplacer des déchets par d'autres déchets, finalement.
Alors moi, je voudrais simplement revenir sur le terme de révisionnisme, puisqu'il est un petit peu gros, et d'ailleurs très en lien avec notre sujet. Mais parler de révisionnisme, quand il s'agit de trouver de nouvelles causes à des événements historiques, c'est justement aller à l'encontre du révisionnisme. C'est justement essayer de trouver de nouveaux apports, faire de nouvelles recherches, en fait. C'est juste de nouvelles recherches historiographiques, et c'est simplement la façon dont l'histoire, la recherche historique avance. Ce n'est pas... Aucun historien n'ira vous dire que des sociétés ont disparu pour la simple et unique raison qu'il y a eu une crise environnementale. Il n'y a pas de... Ce n'est jamais monocausal. C'est toujours des événements qui sont pluricausaux, et il faut prendre en compte toutes les causes d'un événement. Et donc oui, en ce moment, les choses qu'on est en train de découvrir, parce que c'est des recherches qui sont récentes, et donc peut-être qu'on les met plus en avant, et c'est sûrement mieux comme ça, ou moins bien, peu importe votre avis là-dessus. Le fait est que c'est des recherches qui sont nouvelles, et donc oui, récemment, on met en avant de nouvelles études sur toute l'histoire de l'environnement, sur les âges glaciers, les petits âges glaciers, les moments où la Terre s'est réchauffée plus ou moins fort, et sur aujourd'hui en quoi c'est un réchauffement climatique qui est causé par l'action humaine. Parler de révisionnisme, c'est très fort quand même, et c'est justement se placer à l'encontre de toute une pratique scientifique qui trouve sa scientificité dans sa méthode, qui est une méthode justement qui assure qu'il n'y ait pas de biais cognitifs qui soient personnels et qui puissent justement être des biais cognitifs qui puissent nous détourner de la vérité. La recherche en histoire, c'est quand même grossièrement dit la recherche de la vérité sur le passé. Et donc, dire que de nouvelles approches sont du révisionnisme, c'est pour ça que je prends la parole, c'est que je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est pour moi quelque chose. Les nouvelles recherches sont des apports. Ils ne sont pas là pour enlever ce qui a été dit avant, ils sont là pour rectifier, pour corriger, pour apporter, pour modifier. Ils ne sont pas là pour simplifier les choses, ils sont là au contraire. C'est jamais plus simple, c'est toujours plus complexe, et c'est pour rendre compte de cette complexité-là qu'on a besoin toujours de plus de domaines.
Oui, voilà, je pense que ce qu'il y a de bien, peut-être faut-il mettre le mot révisionnisme entre guillemets, c'est l'idée quand même qu'il y a une modification, qu'il y a une refonte, c'est ça qui est important. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le terme qui tout d'un coup est en train d'apparaître et qui n'était pas apparu au préalable, c'est le terme de recherche. C'est-à-dire la vérité, c'est pas ce que l'on sait, c'est pas nécessairement ce que l'on ignore absolument, c'est pas ce que l'on a, mais c'est ce que l'on recherche. Et là, c'est intéressant, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui permet à une communauté de se constituer comme telle? Voilà. Est-ce que c'est la vérité? Ou est-ce que c'est la recherche de la vérité? Et si c'est la recherche de la vérité, ben, ça veut bien dire qu'on la désire, ça veut bien dire effectivement qu'on veut la posséder, mais ça veut dire aussi qu'il nous faut travailler à l'avoir. Et ce travail, il n'est absolument pas certain que ce soit un travail qui puisse se faire seul. Et voilà. Et là, tout d'un coup, j'ai envie de dire, la société en tant que telle, elle émerge. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de faire société ? Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, en fait. C'est le dialogue, c'est le débat, c'est l'échange d'idées, c'est le fait de dire, moi, je pense que oui, mais attention, peut-être que là, on pose mal le curseur. Et donc, la société, c'est une recherche commune de ce qui fait vérité à un moment de la société. Il y a une temporalité, du coup, de la vérité, et ce qui peut nous unir. Et du coup, effectivement, si volontairement, soit on empêche cette recherche de vérité de pouvoir se faire au sein d'une société, soit si ce que l'on estime être la vérité, on préfère la terre, est-ce que ça peut tenir ? Une vraie question. La psychanalyse répondrait très clairement non. Voilà, très clairement. Elle dit, à partir du moment où vous voulez cacher quelque chose, à partir du moment où vous ne voulez pas voir, à partir du moment où il y a du déni, à partir du moment où il y a du refoulé, eh bien, attendez-vous au retour du refoulé. Et en règle générale, il fait très mal, le retour du refoulé. C'est-à-dire, il y a bien quand même quelque chose qui est actif dans la vérité elle-même. Et j'ai presque envie de dire qu'on le veuille ou non. Et c'est là où, effectivement, quand on nous dit qu'on est dans une époque de post-vérité, c'est-à-dire, après tout, avec les théories du complot, chacun peut choisir sa vérité, donc la vérité, elle n'existe pas, en fait. Moi, si je veux qu'il y ait effectivement un problème écologique, ben, il y en a un. Si je veux pas qu'il y ait un problème écologique, ben, il n'y en a pas. Ben, à un moment donné, ben, il va y avoir le réel. Voilà. Et le réel, qu'on le veuille ou non, eh ben, on va se le prendre. Comme dit Lacan, hein, le réel, c'est l'impossible. L'impossible, c'est quoi ? C'est le mur. Voilà. Quand vous prenez le mur, eh ben, vous le sentez. Voilà. Et donc, elle est là, cette vérité. Donc, du coup, effectivement, lorsqu'une société... je veux dire, on peut peut-être se poser la question de notre rapport à la vérité tant qu'on n'est pas confronté au réel. Tant qu'on est dans le langage, dans les discussions, dans les théories, il se pourrait que... Est-ce qu'on est climato-sceptique ? Est-ce qu'on n'est pas climato-sceptique ? Tant qu'on est dans le symbolique, dans le langage, la question, elle peut se poser. Quand on est dans l'imaginaire, la question, elle se pose aussi sur la fête sociale. Voilà. Comment la fait-on tenir ? Est-ce qu'on ment ? Est-ce qu'on ment pas ? Est-ce qu'on la dit ? Est-ce qu'on accepte de l'entendre ? Etc. Mais lorsqu'il y a du réel, quand les tsunamis arrivent, quand les inondations arrivent, quand la canicule arrive, ben là, véritablement, qu'est-ce qui permet à une communauté de se tenir ? Est-ce que c'est d'affronter ensemble le réel, et donc de faire que la vérité, enfin, la vérité de ce réel, on la prenne à bras le corps et on tente de s'y adapter, de s'y plier, parce que c'est pas le réel qui plie. Hein. Le réel, il ne plie pas. Alors, voilà. Mais c'est bien à nous de devoir effectivement, encore une fois, je reprendrai le terme, l'assumer, voilà. Assumer cette vérité, et du coup faire corps avec elle. Et dans le corps, il y a bien quand même cette idée d'unité. C'est-à-dire, hein, voilà, parce que c'est faire corps, c'est cette capacité qu'ont les humains par l'usage de leur raison de reconnaître ce qui est pour y faire face et assurer leur propre survie. Parce que sinon, il y a un autre réel, indiscutable, le fait brut, et on le sait, même si on ne le dit pas. C'est la mort. Et la mort, elle n'est pas qu'individuelle. Je veux dire, la survie de l'espèce, elle n'est pas plus assurée que ça. Donc, si on veut que l'espèce survive, que faire avec cette vérité d'un réel ? Maintenant, encore une fois, la vérité, elle n'est pas donnée. Il nous faut aussi partir à sa recherche. Ce qui veut dire qu'il y a une temporalité de la vérité. Il y a des étapes dans notre vérité. on la perçoit, elle apparaît à l'horizon, des fois elle se cache, on travaille à la formuler, et elle n'advient qu'à partir du moment où elle est reconnue par une communauté donnée, de toute façon. Et effectivement, elle évolue. La raison est toujours capable de saisir au mieux ce qu'il en est de cette structure du réel, tout en sachant qu'on est encore très certainement très barbare vis-à-vis d'elle, mais il n'empêche qu'elle a une incidence. Elle a un effet. C'est pas une simple équation sur un papier, quoi. Donc oui, la crédibilité. Celui qui ment et qui ment bien, il est crédible, mais souvent il est crédible qu'un temps. Et celle qui va le démasquer, c'est la vérité elle-même.
Ouais. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que.
Je ne sais pas le micro.
Oui, sur le fait que des fois. Un politicien peut mentir à une société pour maintenir justement la paix sur son incompétence. Mmh. Et cette incompétence-là, tôt ou tard, elle finira toujours par se révéler et mènera donc cette paix sociale à une crise. Mmh. Donc, c'était juste illusoire. Mmh. Et j'aimerais aussi revenir sur le fait de la famille. Donc, je vais rester sur le thème de l'inceste. On le sait qu'il y a l'inceste, mais tout le monde se tait pour maintenir une certaine union. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de paix quand on sait qu'il y a un problème et qu'on n'exprime pas? Parce que notre conscience nous rattrape toujours. Du coup, je me demande si au lieu de la paix sociale, on ne parlerait pas plutôt d'hypocrisie.
Et la tranquillité des liens, c'est pourquoi j'avais proposé ce terme de tranquillité, hein, le calme en fait. On évite tout ce qui pourrait venir troubler les liens familiaux. Sans pour autant, du coup, permettre à des sentiments authentiques de se manifester. Parce qu'effectivement, dans l'hypocrisie, en fait, ce qui peu à peu se perd, c'est la qualité du lien familial. Hein?
Ça. Il y a beaucoup de sujets. Du coup, moi, ce que ça m'évoque, tout ça, c'est que, en effet, le mot paix n'est pas le mot le plus adapté. J'ai plutôt envie de dire qu'on arrive à garder une certaine ligne droite tant que le conflit intérieur de chacun n'est pas assez fort pour motiver des actions. Tant que ce n'est pas le cas, bah, on conserve le statu quo, et dès que ça commence à devenir compliqué, je ne sais même pas si on peut parler pour tout le monde en général, parce qu'on est toujours maintenu par une peur. Donc on a beau avoir un problème, un conflit interne, on peut se dire oui, mais ok, bah tant pis, c'est comme ça, regarde le machin qui arrive bien à tenir. Donc à moins de pouvoir rebâtir les fondements mêmes de la manière dont on fonctionne, donc ce qui a motivé un problème interne, c'est compliqué de faire bouger les lignes conductrices. Donc c'est un peu ce que, alors j'ai jamais son prénom en tête, mais Aurélien Barreau ou Adrien Barreau, un des personnes, je sais plus. Aurélien, merci. C'est exactement ce qu'il disait, c'est qu'en fait, on peut avoir beaucoup de problèmes. Non, je crois qu'il va y avoir 4 ou 5 problèmes réels en termes de catégorie, et on se concentre toujours que sur un seul problème, parce que c'est le plus simple à résoudre, c'est celui qu'on pense qu'on peut maîtriser, son problème, mais on ne se dit pas que si on devait vraiment résoudre la globalité, en fait, on ne devrait pas regarder juste un point précis, mais on devrait plutôt regarder qu'est-ce qui a motivé tout ce problème-là, donc remettre en cause bien en arrière, et non pas essayer de dépendre d'une technologie, de dépendre de nouvelles idées, de concepts, pour continuer comme on le fait actuellement, mais plutôt de se dire, mais en amont, qu'est-ce qui déconne en amont? Quel est le problème? Ouais. Et c'est ça, justement, on n'est pas prêt à y aller. Je pense, enfin, non, clairement, si je regarde un petit peu au niveau de la société ou autre, les gens ne sont pas prêts, ils ont besoin de se prendre un bon coup de bâton pour se dire que c'est pas possible. Donc ça motive le truc interne, c'est se dire là ça ne va plus, mais tant qu'on conserve ce confort, cette aisance que l'on a, bah, pourquoi on changerait finalement, à moins d'avoir une conscience pour l'autre.
Conscience pour l'autre ou peut-être conscience pour soi, hein?
Il y a eu pas mal de choses, je vais essayer d'être
curée parce que du coup j'ai eu pas mal d'idées aussi. Déjà, j'avais pas une idée dont avait parlé monsieur au tout début de la qualité de la société ou la qualité de la vérité et tout ça. Et je pensais ce que vous disiez sur Platon, sur le statut du mensonge et des hommes politiques. Et pour moi, il y avait déjà deux types de mensonges, en gros des mensonges pour assurer la situation de certaines personnes dans la société ou de soi-même, donc pour des bénéfices individuels, et aussi dans d'autres cas des bénéfices pour la société. Donc, je pensais à des exemples, par exemple, quand il y a des pénuries ou pénurie de fécu, par exemple, et que ça a créé un état de panique et tout. Et du coup, je me disais que, en fait, là où la vérité est problématique et qu'on a des omissions, c'est quand elle est pas cool, hein, quand c'est des mauvaises nouvelles. Et du coup, dans ces cas-là, par rapport à la manière de l'exprimer, ça peut générer des réactions extrêmement émotionnelles, voire irrationnelles. Et c'est là qu'il peut y avoir justement un effet destructeur. Et du coup, dire par exemple, si là je vous dis, bon ben voilà, il va y avoir un problème et il y a 5 personnes qui vont mourir dans cette pièce parce que, je sais pas, il y a un empoisonnement, des choses comme ça. Si je vous dis comme ça, ça va peut-être générer de la panique et peut-être que j'aurai rien de pas vous dire pour essayer de trouver un autre moyen. Donc il peut y avoir quand même des mensonges potentiellement bénéfiques, en tout cas à court terme. Mais accepter la vérité, en effet, c'est pas forcément évident, et j'ai l'impression que ça demande, ça génère des réactions qui peuvent être violentes, qui peuvent être de la culpabilité, de la peur, et à l'inverse, il faut peut-être un certain courage aussi pour l'accepter, en fait. Et ensuite, le courage de se mettre en mouvement. Pourquoi, depuis des années, j'ai accepté que la planète est en train de n'allait pas bien, mais je vais continuer à utiliser du plastique ou des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment des choses, et j'ai l'impression qu'on est dans un truc à la fois dans quelque chose d'émotionnel, qu'on est sur le champ, un champ émotionnel, à la fois un champ rationnel, et qu'entre les deux, et ben, il y a une dissonance ou quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'irrationnel aussi dans cette histoire.
Nous ne sommes pas des êtres que de pure raison. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que notre intérêt personnel, souvent, ressurgit et se met au premier plan. Voilà. D'où le conflit interne que ça peut générer. Entre ce que je dois faire, et je le sais, je vois le bien. Et pourtant, je fais le mal, ou en tout cas, il y a ce que je dois faire et il y a ce que je fais. Voilà. Et entre les deux, il peut y avoir, oui, une marge considérable, parce que je protège, je me conforte, ou simplement parce que ce que je dois faire me paraît nécessaire, mais voilà, ça peut être fait demain aussi. Hein, pourquoi aujourd'hui ? Soyons pas trop rapides non plus.
Non. Voilà. Ah, d'accord. On m'entend
bien ? Oui.
Oui, il y a aussi ce qu'on peut faire. Il n'y a pas que ce qu'on veut faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, il y a ce qu'on peut faire par rapport à sa propre histoire, par rapport à ce qu'on a vécu. Et notamment, je pense au phénomène de sidération ou de dissociation, quand on a vécu des choses extrêmement difficiles, même quand on a vécu effectivement la période il y a 4 ans extrêmement. Difficile et harcelante avec les médias qui nous décomptaient le nombre de morts par jour. On a quand même un cerveau qui a des modes de réaction qui peut parfois nous emmener en fait à être incapable à un moment donné seul de pouvoir faire. Et tout l'intérêt est effectivement qu'il y a un maximum de d'être ensemble et de pouvoir justement travailler ensemble, accompagner, amener les gens en fait à déculpabiliser aussi sur leur incapacité à faire à un moment donné, pour leur dire là tu peux pas, ok, c'est pas facile d'apporter son petit truc, c'est de reconnaître aussi que c'est difficile et pas forcément d'accuser les gens d'être inactifs et de plutôt d'aller les voir en leur disant mais comment on peut vous aider, comment on peut vous amener en fait à vous mettre en marche et pas les pointer du doigt pour leur dire ben voilà, vous êtes, vous voulez pas, vous êtes incapable, c'est de votre faute. Je voulais préciser ce pouvoir faire, on ne peut pas forcément toujours, et on a besoin d'être patients les uns avec les autres, d'être tolérants et d'accepter, d'accompagner et d'ouvrir aussi au champ de la vérité progressivement.
Alors, ce rapport à la vérité, là, il me semble important, c'est-à-dire, j'aimerais dire qu'avec la vérité, il nous faut être délicat. Voilà, il nous faut être délicat. Parce que la vérité, elle est, mais ensuite, encore faut-il la recevoir et encore faut-il pouvoir la recevoir. Et c'est une chose de dire la vérité, c'en est une autre de la dire aussi n'importe comment. Il y a une façon de dire la vérité. Il y a une temporalité pour la vérité. Il faut des fois préparer le terrain. Il faut, faut véritablement prendre soin de cette vérité parce que prendre soin de la vérité, c'est prendre soin de celui ou de celle à qui je vais la dire. Et il y a des moments où on ne dit pas la vérité. Voilà. D'abord, des fois, parce que c'est inutile. À mon voisin, je ne dis pas la vérité parce que je ne dis pas ce que je pense de lui. D'abord, est-ce que c'est la vérité ? C'est pas certain. Voilà. Hein. Mais voilà, donc des fois, il faut savoir se taire, effectivement, parce qu'on croit que ce que l'on pense est vrai, mais non. Non, c'est simplement ce que l'on pense ou ce que l'on ressent. Mais ensuite, plus profondément, je crois, c'est qu'il nous faut être attentifs à la... Encore une fois, nous ne sommes pas des êtres que de pure raison, à la sensibilité des autres. Et que aussi bien au niveau individuel que collectif, du reste. Il faut qu'une population soit prête à pouvoir entendre quelque chose pour pouvoir agir une fois qu'elle entend cette vérité. Mais une vérité qui nous tombe du ciel, c'est une vérité qui peut se sidérer. Et donc, plutôt justement que d'amener quelque chose dans la qualité d'un lien social qu'elle pourrait créer, la vérité peut aussi être fondamentalement destructrice. C'est une arme à double tranchant. Il faut faire extrêmement attention avec cette vérité. Donc, il y a un temps pour dire les choses, il y a une manière pour dire les choses, il y a un temps aussi pour savoir se taire. Donc il faut savoir être sensible, voilà, nous-mêmes, à ce moment de dévoilement de la vérité et à cette manière de la présenter à l'autre pour qu'elle puisse d'abord être reçue et ensuite être effective, oui, et accroître la capacité d'agir du coup des gens. Oui, tout à fait. Ouais. Encore une fois, hein, la vérité, elle illumine et elle peut aveugler. Donc, il faut faire attention à la lumière de la vérité.
J'ai l'impression, je prends le micro pour dire que j'ai l'impression qu'en fait, notre débat, il a un peu quitté de la question d'origine. Il a beaucoup tourné sur la vérité et le mensonge, qui sont justement les ingrédients de la question d'origine. La question d'origine, j'ai noté devant moi, qu'accepterons-nous de mensonges pour le maintien de la paix sociale? Et en fait, on n'a pas répondu à la question qu'accepterons-nous, et on n'a parlé que du mensonge, et forcément en même temps de la vérité. Alors, c'est vrai que je dirais que moi, qu'accepterons-nous ? Ben, finalement, on acceptera que... On n'acceptera pas tout, mais on acceptera le discours que la société reçoit parce qu'on le percevra comme une vérité, même si c'est un mensonge. Parce que finalement, comme disait le philosophe, le gouvernant va mentir. Mais finalement, il ment par rapport à une référence de ce qu'il sait. mais quand il évoque, quand il fait un discours qui est un mensonge, nous pouvons tous l'entendre, non pas comme un mensonge, mais comme une vérité, et tant que nous partagerons, tant que collectivement, majoritairement, nous entendrons comme une vérité ce qui est en fait un mensonge d'un gouvernant, tant que la majorité entendra comme une vérité acceptable, à ce moment-là, ça répondra à la question. C'est-à-dire que nous continuerons à accepter. Et nous acceptons parce que collectivement, nous ressentons une vérité. Quelle soit la vérité d'un discours d'orientation de politique ou un discours médiatique, mais aussi une vérité de l'événement, comme vous disiez, c'est ça le plus événement, la vérité, tant que collectivement, il y a une majorité qui le ressent comme étant vérité, alors que c'est un mensonge, eh bien, l'acceptation, elle continuera. Et là, à ma façon, je réponds à la question d'origine qui était jusqu'où accepterons-nous ? Et la question d'origine n'était pas nous discutons sur le sujet, c'est la vérité ou le mensonge. Que répondriez-vous à la question jusqu'où accepterions-nous, si je ne me trompe pas ?
Je vous suis. C'est-à-dire, effectivement, tant que ce qu'on nous présente, on le juge comme étant acceptable, tolérable, je ne sais pas si on va jusqu'à la vérité. Mais en tout cas, voilà, on le tolère à partir de ce moment-là, on supporte.
Moi, je pense que, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, on peut tout à fait penser que ce qu'on nous raconte, ça peut être des mensonges à un moment donné, mais qu'effectivement, c'est la peur qui nous gouverne. Et que si ce qu'on nous dit, ça nous rassure, ça fait baisser notre peur, même si on sait que ça ne va durer peut-être qu'un temps, mais sur le coup, ça nous rassure et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pas parce qu'on dit que c'est vrai ou c'est faux, c'est parce que ça nous rassure.
Mécanisme, c'est l'acceptation. C'est ça qui compte le plus. Vérité par vérité, c'est pas un problème.
Je pense qu'on acceptera la vérité comme, enfin, le mensonge comme étant la vérité à partir du moment où ça protège nos intérêts.
Ouais, moi, je me permets d'intervenir. Moi, je pense que c'est la vérité qui réconcilie. Je pense que la tranquillité, pour reprendre le terme que tu as proposé, elle se gagne peut-être à court terme sur la propagande, la manipulation, le mensonge, tous ces artifices qu'on voit à Platon ou Machiavel, mais que finalement, à moyen et long terme, c'est la vérité qui permet le lien social. Pourquoi ? Parce que la vérité, d'abord, c'est ce qui fonde un lien de confiance. Et je ne peux vivre avec autrui, dans une famille, dans une collectivité, que si j'ai confiance, la parole de l'autre est pour moi digne de confiance. Et dès lors qu'on m'a trompé, effectivement, ma confiance, déjà, s'en trouve très largement érodée. Et surtout, la vérité, c'est ce qui réconcilie. Quand on voit, par exemple, la guerre des mémoires, que ce soit pour le conflit. La guerre d'Algérie, ça sera comment on sort du traumatisme du génocide au Rwanda, comment on sort de l'apartheid en Afrique du Sud. Les tribunaux qui se sont mis en place, ce sont des tribunaux qu'on appelle vérité et réconciliation. C'est-à-dire qu'on ne met pas, la douleur ou les atrocités sous le tapis, au contraire, on se réunit entre le bourreau et ses victimes et on déballe tout et on parle. Ça ne veut pas dire qu'on va partir en vacances ensemble et qu'on ne sera pas forcément tous des camarades. Mais ça veut dire qu'on peut vivre à côté de son voisin. Le voisin qui, deux ans auparavant, avait peut-être une machette ou un autre instrument pour couper la tête de celui qui l'était cher. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que le lien social, contrairement à ce qu'on pourrait, à mon avis, affirmer de manière peut-être un peu trop cynique, à mon goût, se construit sur une réconciliation qui elle-même suppose une confrontation à ce qui ne plie pas, parce que je disais, c'était la réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut accepter que les faits soient des faits. ce qui s'est passé, c'est passé, que cet inceste, il a eu lieu, et que la famille ne peut réellement devenir famille, ou redevenir famille, que s'il y a vérité, et que si cette vérité peut être entendue et acceptée. Sinon, c'est pas la famille, c'est la domination.
Je voulais juste citer un proverbe tibétain que j'aime beaucoup et qui va dans le même sens que ce que vient de dire Nicolas, mais par le bout. Avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour.
Moi, j'aimerais simplement revenir sur deux choses. D'abord, l'une sur la question de l'acceptation vis-à-vis des intérêts. En fait, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'on est aussi capable d'accepter des choses qui vont analyser de façon objective à l'encontre de nos intérêts personnels, mais qui, dans notre perspective personnelle, on va les accepter parce qu'on pense que ça peut nous aider. Et ça, c'est une question qui est beaucoup traitée par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Mais par exemple, si on peut donner des exemples, par exemple, toute la politique de l'extrême droite dans l'histoire en général a quand même été une politique qui était très portée sur les masses, sur les personnes pauvres, en leur disant, voilà, on va vous donner des droits, on va réduire le chômage, on va faire ci, on va faire ça, et qui, en fait, dans la réalité, était une politique très, très capitaliste, qui était au service de la bourgeoisie, et pas du tout pour les personnes les plus pauvres, les plus désavantagées. Et pour autant, ils ont réussi à convaincre ces personnes-là comme ça. Et donc, on arrive à faire croire à des gens que leur intérêt... En fait, on modifie l'intérêt des gens. Contrairement, ils agissent selon un intérêt qui n'est pas le leur, mais qui pense être le leur. Et donc ça, c'est aussi un biais à prendre en compte dans la question de l'acceptation. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, et qui était aussi à l'origine de la question, c'est la question de la paix sociale. Et en fait, on n'a pas du tout défini ce que c'était la paix sociale. Moi, la question que je me pose, c'est si la paix sociale, c'est l'état actuel, pour prendre à notre échelle de la France, donc voilà, est-ce que la paix sociale, c'est un pays avec une précarité qui grimpe, avec des centaines de milliers de gens qui dorment dehors, qui meurent dehors de faim, de soif, avec des gens qui, même à l'intérieur, meurent de froid, est-ce que c'est ça la paix sociale? Enfin, si c'est ça la paix sociale, alors moi je suis contre. Et alors du coup, vérité ou mensonge, ça c'est encore une autre question. Mais est-ce que on veut maintenir la paix sociale? La paix sociale, c'est qui? Est-ce que la paix, c'est quoi? La paix, c'est la paix qui est imposée par un gouvernement, mais c'est qui gouverne? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est notre classe? Est-ce que on veut maintenir cette paix sociale? Et c'est une question qui à laquelle on ne s'est pas vraiment questionné dessus ce soir sur ce que c'est la paix sociale et à qui ça profite. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait une intervention pour poser, qui a amené cette question-là. Je la reprends, mais à qui profite la paix sociale et qu'est-ce que c'est la paix sociale réellement? Et moi, de ce que je vois, de ce que c'est la paix sociale, moi, j'ai pas envie de la garder. Et donc peu importe mensonge ou vérité. Moi, ça ne m'intéresse pas, une paix sociale qui est celle qu'on me présente aujourd'hui.
Vous m'entendez? Du coup, paix sociale, stabilité sociale, moi j'avais un peu l'idée du contrat social, un peu comme il était défini par Rousseau, où j'accepte de céder une partie de ma liberté au profit du groupe, parce que ça peut être quand même vachement rassurant de vivre dans un groupe, surtout pour des humains, parce que tout seul on est très 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 bon. Et c'était, voilà, qu'est-ce que je cède de ma liberté, mais peut-être aussi de mon rapport à la vérité, au mensonge et tout ça, pour que justement je construise.
peut-être continuer à profiter du gâteau commun par rapport au travail qui va être produit par tous, ou des choses comme ça. Enfin, j'avais cette vision-là de stabilité sociale où j'ai suffisamment de confiance pour me balader dans la rue le soir pour pas avoir de problème et tout. Mais en effet, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une dégradation qui m'interroge sur bah, jusqu'où on accepte, en fait, vraiment. Est-ce que, enfin, la paix sociale se dégrade. Qu'est-ce qui fait qu'on ne réagit pas, pas suffisamment? Pourquoi? Enfin, peut-être la question qu'on a dérivée, c'est à quel moment on arrive à une révolution ou quoi? C'est quoi qui va déclencher ça? Concrètement, enfin, historiquement, mais voilà, jusqu'où on est prêt à accepter que ça se dégrade, peut-être, ou pas, mais. Voilà. Je suis toujours au même, si vraiment, mais il y a vraiment des choses. J'espère que je suis plus claire sur la question.
Comme toi, c'est important de bien comprendre la question.
Il y a la paix sociale qui nous dérange quand des gens meurent de faim, n'ont pas de travail. Et il y a la paix sociale qui dérange tout le monde quand on ne peut plus se déplacer, quand on sort dans la rue mais qu'on est agressé. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de paix sociale. Il y a la moralité, il y a le fait de donner aux gens, il y a le fait d'avoir peur pour tout le monde quand on ne peut plus se déplacer, quand notre liberté est prise en défaut. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a plus de paix sociale. Si je ne peux plus aller acheter à manger, si je ne peux plus aller à mon travail, si je ne peux plus aller voir ma famille, voilà.
Je vais revenir sur quelque chose. Il y a un terme que vous avez employé qui dit qu'aujourd'hui la paix sociale se dégrade. Il y a cette petite idée que pourquoi on en arrive à se dire qu'aujourd'hui une paix sociale se dégrade. En fait, l'idée c'est que aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a on va parler de soulèvement, c'est vraiment le terme, mais il y a de plus en plus de gens qui vont aller dans la rue. Il y a les manifestations qui vont être de plus en plus violentes, qui vont essayer un peu plus de se faire entendre au fur et à mesure. Donc en fait, on va revenir sur cette idée que l'État possède le monopole de la violence légitime, et que par conséquent, cette violence-là, elle a toujours existé. Elle a toujours été là. Mais pourtant, si on parle bien de dégradation aujourd'hui, c'est parce qu'on a estimé qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques décennies, qu'il y a quelques siècles, etc., que ça allait. Et qu'en fait, cette violence-là, elle va bien, elle passe bien, elle existe. Mais c'est pas grave, parce que c'est cette violence-là. Et c'est à partir du moment où on commence à avoir une violence qui vient d'en bas, on commence à se poser la question. Mais il n'y a pas une dégradation de ce calme social, parce qu'en fait, cette violence-là, elle a toujours été là. C'est qu'en fait, c'est pas tant ça le problème. Le problème vient pas qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dégrade. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on l'entend plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens justement qui essayent de l'atteindre, cette paix sociale, par différents moyens. Mais pour atteindre cette paix sociale, il faut passer par une attaque. Il faut passer par un dérèglement avant tout d'une paix sociale qui ne convient pas aux gens qui, justement, aujourd'hui, subissent cette paix qui n'en est pas venue.
Alors, je voudrais simplement compléter une chose. D'abord, je suis d'accord, mais simplement... pour revenir sur l'idée que vous donniez du contrat social rousseauiste, et donc on sacrifie une part de sa liberté individuelle pour la donner à un collectif. Revenons là-dessus. Aujourd'hui, ça donne nos États. Et nos États qui ont justement, comme ça vient d'être dit, le monopole de la violence légitime. Et en fait, on se retrouve donc avec deux termes qui pour moi sont antinomiques, c'est-à-dire qu'on a un organe qui a une violence, mais c'est cette violence-là qui, bon, déjà c'est antinomique qu'elle soit un monopole, et légitime en plus, mais en plus de ça, c'est elle qui doit assurer la paix sociale, normalement. Donc c'est une violence qu'on considère comme légitime et qui doit assurer la paix, par la violence donc. Et Et ça on en arrive donc en fait à des conclusions où en fait quand il y a des mouvements qui naissent bah, justement d'en bas et où on utilise justement la violence où l'État utilise sa violence légitime pour les réprimander, on a de plus en plus l'impression que bah voilà, on s'éloigne de la paix sociale, de plus en plus de contestations, et donc du coup la paix sociale est minimisée. Et en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, la paix sociale, il n'y a jamais eu de paix sociale. Et pour revenir avec ce qui a été dit encore à l'intervention d'avant, la paix sociale, on peut dire unanimement que la paix sociale, il n'y en a pas quand on ne veut pas se déplacer, quand on ne veut pas aller faire ses courses, pas aller travailler, et tout un tas d'exemples. Mais enfin, il y a toujours eu des groupes dans l'histoire qui n'ont pas eu l'occasion, cette chance-là. Aussi loin que l'histoire remonte, il y a toujours eu des personnes qui étaient beaucoup plus opprimées que nous on l'a été à notre échelle. Et au 19e siècle, il y avait quand même la ségrégation aux États-Unis. Il y avait des gens qui littéralement étaient encore dans un régime esclavagiste. Au 20e siècle, il y avait des moments de guerre. Il y avait des moments, tous les grands pogroms à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Et aujourd'hui, il y a encore des grands moments où, des grandes zones géographiques où les gens ne sont pas dans des moments de paix sociale. Et encore aujourd'hui en France, il y a des gens qui, si on prend cette définition-là de la paix sociale comme la capacité à pouvoir se déplacer, à pouvoir subvenir à ses besoins les plus primaires, non, il y a des gens qui ne sont pas dans un moment de paix sociale. Et pourtant, de la part du gouvernement, l'image en tout cas que le gouvernement veut donner de certaines de ces personnes-là qui expriment leur mécontentement, c'est l'image des personnes qui menacent la paix sociale, au nom justement du fait qu'ils voudraient simplement vivre, parce que pour eux, de leur point de vue, ils ne sont pas dans un moment de paix sociale. Donc, je fais une transition parfaite pour dire qu'on revient sur la question de la vérité, parce que du coup, on a deux visions qui s'opposent sur une réalité, sur une même réalité. Enfin, donc, voilà.
Bravo. Madame, vous vouliez intervenir
Je voudrais revenir. Il y a une notion que j'aime beaucoup. Alors, c'est dans l'Égypte ancienne, c'est la notion de Maat. Dans l'Égypte ancienne, c'était ce que le dirigeant devait assurer. Ce n'était pas simplement une question de nourriture et autres, c'était aussi une question d'équilibre. Et, alors, c'était certes une société très inégalitaire, mais la notion d'équilibre, je la trouve intéressante parce que je pense qu'on pourrait la rattacher à la paix sociale, c'est-à-dire qu'on a l'impression de recevoir autant ou plus que ce à quoi on renonce. Et je pense que, si on considère qu'on reçoit, qu'on sacrifie un peu de vérité, mais qu'au contraire, ça nous donne de la sécurité, de la liberté, ou ce genre de choses, on fait une balance, en fait. Et cette notion d'équilibre me semble importante dans la paix sociale. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre point qui me semble de plus en plus difficile de pouvoir dire ce qu'est la vérité. On n'a jamais eu autant d'informations, et pourtant, cette vérité me semble être noyée dans un flot d'informations et de fake news, que les nouvelles technologies rendent de plus en plus difficile la différenciation entre le mensonge et la vérité. Et je pense que là va se poser peut-être une question d'accès à la vérité.
Alors, pour conclure, qu'est-ce que la vérité ? Faut-il préférer la paix sociale à la vérité ? Ou la stabilité ? Alors, pour conclure, en fait, j'aimerais me fonder sur le film de Steven Spielberg, je ne sais pas si vous l'avez vu, Amistad, où justement on parle de la ségrégation, aux États-Unis, de l'esclavagisme,
Alors, assez rapidement, quelle est l'histoire d'Amistad? Amistad, en fait, c'est l'Amistad, c'est un navire. C'est un navire qui amène des Noirs aux États-Unis qui vont être vendus comme esclaves. Et sur ce navire, il va y avoir une rébellion d'esclaves. Et en fait, cette rébellion d'esclaves va donner naissance à un procès. Voilà. Et dans ce procès, la question est, est-ce qu'il faut les tuer comme esclaves ou est-ce qu'on peut reconnaître qu'en tant qu'humains, ils avaient le droit de se révolter? Ce qui n'est pas une petite question. Hein. Voilà. C'est un très très gros procès. Je vous invite à regarder le film. Mais c'est la fin qui m'intéresse. C'est la fin qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que leur avocat, leur dernier avocat, assez révolté, à ceux qui se battent pour leur liberté, c'est un ancien président américain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la paix sociale ? Qu'est-ce qu'on fait avec la paix sociale ? Parce qu'il a le sens du politique, ce président américain. Et il sait parfaitement, on est devant la Cour suprême américaine, il sait parfaitement que le jugement que rendra la Cour suprême, suite donc à sa plaidoirie, si les Noirs sont relaxés, il dit c'est la guerre civile, c'est la guerre du Nord avec le Sud, ça va être la fin des guerres de sécession, c'est la guerre. Voilà. Et s'ils sont condamnés, c'est la paix sociale. Que faire ? Et c'est son dilemme. Que faire ? Et il dit, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Il dit, la vérité, ce sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est quoi ? Eh bien, c'est la Constitution. Ce sont les pères fondateurs, les pères de la Constitution américaine. En quoi on croit ? En quoi on croit ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes fiers d'être des humains ? Qu'est-ce qui fait qu'on est fiers d'être américains ? Pourquoi est-on prêt à donner sa vie ? Et puis, il le pose très clairement, et devant la Cour suprême, il dit, pourquoi est-on prêt à faire la guerre ? Voilà. Il est pour la Constitution américaine. Donc, à partir de ce moment-là, si la liberté est une valeur qui vaut pour vous, si la dignité humaine est une valeur qui vaut pour vous, si le droit est une valeur qui, pour vous, fait sens, alors, ben vous savez où elle est. Peut-être pas la vérité, mais en tout cas, notre vérité d'humain. Et à partir de ce moment-là, ben, il faut l'assumer. C'est-à-dire, effectivement, il faut assumer la guerre. Et ça sera la guerre. Mais la guerre, pourquoi ? Pour une autre paix sociale. Pas une paix sociale qui se paie du verbe payer, qui se paie de la satisfaction de nos intérêts, mais une paix sociale qui unit le genre humain. Une paix sociale qui ouvre un avenir. Effectivement, une vérité dans ce sens-là, qui est peut-être un progrès, mais qui est déjà inscrit dans nos textes constitutionnels. Voilà. Et une vérité contre laquelle, effectivement, on peut aller, qu'on peut fouler du pied, qu'on peut remettre en cause. Nos valeurs ne valent qu'à partir du moment où nous leur accordons une valeur. Notre société ne tient qu'à partir du moment où on lui accorde une valeur. Et le contrat social, pas nécessairement l'État. Le contrat social, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que l'on reconnaisse un ensemble de valeurs, ne serait-ce que celle de l'égalité, pas de domination, qu'on reconnaisse un ensemble de valeurs qui font que nous avons le désir de vivre ensemble. Qui fait qu'effectivement, nous avons le désir de créer un corps politique. Un, pas pluriel, un corps politique. Et qui fait que dans ce corps politique, il n'y a pas de logique de domination, il n'y a pas de logique d'aliénation, il n'y a pas de logique où certains en viennent à profiter d'autres. Alors effectivement, on pourrait dire que c'est un idéal. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est un idéal, peut-être. Ouais. Et c'est un idéal qui est à construire. C'est un idéal pour lequel, effectivement, il nous faut accepter de voir le réel tel qu'il est pour que cet idéal puisse y adapter. C'est un idéal qui demande du courage, qui demande de la confiance. Il n'y a de communauté possible que sur le fond de la confiance réciproque. Et non pas de la méfiance réciproque. Et donc, effectivement, la paix sociale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est peut-être du relationnel, de la communication, de la capacité à voir la différence sans que cette différence fasse peur, sans justement qu'elle nous terrorise. Parce que on sait, au fond, qu'on n'est pas seul. Et que si j'ai froid, il y aura toujours quelqu'un pour me tendre la main et pour m'aider. Si j'ai faim, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Voilà. Je sais que ma vulnérabilité est prise en charge, mais je sais aussi que ma force est ce que je peux mettre au service de la vulnérabilité des autres. Parce que nul n'est fort à l'état d'éternel, nul n'est vulnérable aussi. La communauté humaine, c'est celle qui sait justement inverser le cours de la loi naturelle. Si la nature peut se penser et encore faire voir sur la loi des plus forts, l'humanité, c'est celle qui est capable aussi de se penser sur la voie du plus faible. Bon, les enfants, il faut savoir les entendre. Voilà. Il faut savoir se mettre à leur niveau, il faut savoir ne pas profiter de ceux qui sont dans la misère, etc., etc. Ce qui est en fait tout un apprentissage, et le 18e a donné un nom à cet apprentissage, c'est l'apprentissage à la citoyenneté, je crois, c'est-à-dire à cette capacité d'être autonome avec les autres, et à cette capacité de se dire que la vérité n'a de sens qu'en tant qu'elle défend les valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Voilà. C'est l'authenticité qui m'importe dans le rapport à la vérité. C'est l'honnêteté intellectuelle qui m'importe dans le rapport à la vérité. Quand le savant me dit quelque chose, à la limite, il peut se tromper, oui, peut-être qu'il peut se tromper. Mais ce qui m'intéresse, c'est son honnêteté intellectuelle. C'est son désir de découvrir la vérité et de nous la transmettre. C'est ça qui m'importe, parce que c'est ça qui fait sens pour l'humanité. Et la véritable paix sociale, elle est là. Elle est dans cette recherche du vrai, qui fait en fait que dans la recherche du vrai, on exprime les valeurs fondamentales qui sont celles que l'on reconnaît comme nécessaires à la constitution d'une société humaine. Merci. Et maintenant, je vous propose le verre de l'amitié. Voilà.